Volume sur 11, un podcast d'Antoine Dubuquois. De la musique avant toute chose. Ça, c'est Verlaine qui l'a dit. Avec le volume sur 11, ça, c'est Spinal Tap. On n'a jamais autant produit de musique qu'aujourd'hui. Pour les artistes, c'est loin d'être simple de se faire connaître dans tout ce bruit. Dans le volume sur 11, je vais à la rencontre des artistes, à la découverte de nouveaux noms et de nouveaux sons. Dans chaque épisode, une nouvelle rencontre. Il y aura de la pop, du rock, de l'électro, du métal, du punk, du rap, tous les genres. Ouvrez vos chakras, on commence. Mon invité aujourd'hui dans le volume sur 11, Kevin, qui officie sous le nom de Magnetic Rust. Bonjour Kevin.
Salut Antoine.
Alors dis-moi, comment ça s'est passé pour toi? Comment tu as vécu d'un point de vue créatif cette succession de confinement, couvre-feu, impossibilité de faire du live, etc.
Alors, écoute, moi je l'ai plutôt bien vécu dans le sens où je me suis encore plus plongé dans la musique. J'étais enfermé chez moi et j'avais vraiment du temps pour moi. J'ai retrouvé du temps que j'aurais employé autrement s'il n'y avait pas eu le confinement.
D'accord. Alors, parle-moi de ton parcours musical. C'est comment est né ce projet Magnetic Rust et d'ailleurs, d'où ça vient d'ailleurs Magnetic Rust en fait? Comment c'est venu le nom, déjà ton nom d'artiste, et puis après comment effectivement tu t'es mis à composer?
Alors d'abord, je vais d'abord commencer par t'expliquer comment je me suis mis à composer, mais ça fait déjà très longtemps en fait que je compose, que ce soit dans des groupes que j'ai formés, des groupes pop-rock dans lesquels j'ai participé en tant que claviériste, ça fait 30 ans en fait que je fais de la musique. Magnetic Rust est né de l'envie de pouvoir m'affranchir de certains obstacles. Alors quand je parle d'obstacles, c'est très difficile en fait quand on compose de réussir à toujours être totalement libre quand on est avec d'autres personnes dans un groupe. Et j'ai fait pas mal de groupes et avec toujours beaucoup de frustration liée à certains égos qu'il faut gérer. Et je me suis dit un jour, en fait, j'ai besoin de personne. Je vais me lancer en solo et on verra ce que ça donne.
D'accord. Là, tu as sorti donc 4 albums coup sur coup, ils ont quasiment un par an, donc une belle productivité. L'histoire du dernier, comment il est né le dernier album multicolore?
Ah bah écoute, à chaque fin d'album, je me dis vite, je démarre le suivant en fait. Donc quand j'ai terminé Fragile, qui était vraiment l'album qui a été fait pendant le premier confinement, hein, je me suis dit allez on attaque le suivant et j'ai commencé déjà là à créer des premières ébauches de titres qu'on retrouve aujourd'hui dans Multicolor. Il y avait dans Multicolor aussi une envie de pas ressembler à Fragile.
Ouais.
Une envie d'essayer d'être différent en gardant ma patte, mais en changeant vraiment certaines choses, notamment dans mes sonorités.
Ouais. Alors ces sonorités, d'où elles viennent en fait? Quelle est ton inspiration? Enfin, est-ce que tu as des modèles musicaux? Est-ce que tu fais effectivement de l'électro, mais d'où vient justement le son en fait, Magnetic Rust?
Pour les sons, ma plus grosse source d'inspiration sont les synthés en fait. Quand je bidouille des synthés, ça me vient comme ça en fait. Je trouve un son et là je trouve ce son superbe et je me dis mais ça m'inspire, ça me donne envie de faire quelque chose autour de ce son.
D'accord.
Et concernant mes influences, après je pense que elles sont vraiment très éclectiques puisque en fait je suis loin d'écouter uniquement de la musique électronique. Hein. J'aime beaucoup le jazz, le classique. J'écoute énormément de soul et aussi de la musique électronique, bien sûr. Hein. J'aime bien Depeche Mode, c'est toute cette vague de New Wave 80 très électro, j'aime beaucoup. Ce serait mentir que de dire que je n'écoute que de l'électronique, en fait. C'est très, très éclectique.
Ouais. Et dans l'électro, tu as des artistes qui t'ont particulièrement inspiré
Alors, j'aime bien le
dans
travail
l'électro
de Mount
récente,
Cop,
enfin.
j'aime bien le travail de John Hopkins, j'aime bien aussi le travail de Brian Eno, finalement, dans l'électronique, ce que j'aime beaucoup, c'est ceux qui font de l'ambiance plutôt que de l'électronique plus dansante.
Alors, et ton processus créatif, comment ça se passe? Tu parlais de bidouiller les synthés. À la base, tu as une formation musicale classique. Comment tu es venu à la musique?
Alors, j'ai commencé donc à l'âge de 10 ans. D'abord par un parcours classique avec professeur de musique, hein, et puis très vite, ne trouvant pas vraiment de plaisir dans le solfège et tout ce qui était très scolaire, j'ai continué seul à faire ma formation en autodidacte.
D'accord. Et uniquement clavier ou t'es multi-instrumentiste?
Ah ben je suis très mauvais sur les autres instruments.
D'accord. Et là, tu travailles, donc tu fais ça en home studio, tu t'es payé des heures de studio. Enfin, comment ça se passe l'enregistrement de tes albums?
Alors justement, quand j'ai pris la décision de faire Magnetic Crust, je me suis dit aussi, voilà, c'est le moment aussi d'investir de m'équiper en fait pour être totalement autonome. Donc petit à petit, je me suis fait mon propre home studio et je travaille chez moi.
D'accord. Et le live, tu fais un peu de scène. Enfin, tu as eu l'occasion de produire, en fait, de jouer ta musique en public, enfin sur des scènes.
Alors avec Magnetic Crust, non.
D'accord.
Pour l'instant, non. Je dis pour l'instant parce qu'en fait, les contacts sont en train de se faire. C'est-à-dire que j'ai déjà fait beaucoup, beaucoup de scènes avec les groupes dans lesquels j'ai joué.
Ouais.
Mais là, pour Magnetic Crust, j'ai très envie de faire quelque chose qui allie musique, vidéo, effet de lumière. Donc là, j'ai pris contact avec un DJ hein, pour voir ce qu'il pourrait faire éventuellement avec moi en termes de VJing.
Ouais.
Et dès que possible, j'entamerai la scène avec Magnetic Crust. Ça, c'est un projet futur auquel je tiens, mais qui pour l'instant n'est pas encore ne s'est pas encore concrétisé.
D'accord, ça fait partie de ce qui va venir. Alors, une question aussi qui me taraude, je sais que c'est une question piège, et je pense que tu vas me détester pour ça, mais je la pose quand même. Moi, j'ai écouté ton album. J'aime beaucoup les morceaux, justement, à la fois des trucs très très rythmés, des morceaux plutôt ambiantes. Et alors, un truc qui m'a frappé, c'est les titres. C'est les titres. C'est-à-dire pourquoi on appelle un morceau Bullshit Jobs, par exemple?
Je crois que ça vient des convictions politiques en fait. Non, ouais, c'est marrant parce que quand on n'a pas de parole, du coup, on se dit ben le seul élément qui va pouvoir être identifié quand on n'écoute pas la musique, c'est le titre. Mais il faut savoir aussi une chose, c'est que parfois c'est un vrai casse-tête de trouver un titre, et c'est même parfois beaucoup plus compliqué de trouver un titre que de composer un morceau. Enfin, c'est mon avis.
Ah oui. En tout cas, c'est assez réussi. Et alors, je vais continuer le torture test, mais multicolore, en fait. Donc, il y a un morceau de l'album qui s'appelle Multicolore. L'album s'appelle Multicolore. Qu'est-ce que ça évoque, en fait? Qu'est-ce que ça
Alors,
sous-tend, en fait? Ou alors, c'est juste comme ça pour le plaisir de la sonorité?
alors, y a plusieurs choses que j'ai voulu quand même évoquer. C'est que, tu vois, dans chaque album que j'avais fait, les trois précédents, il y avait toujours un peu, enfin, une thématique qui survolait un peu l'album. Il y avait les machines hein, dans le premier, il y avait dans le deuxième, il y avait beaucoup de travail sur les émotions qui étaient traitées, c'était voulu. Dans le troisième, hein, qui était composé dans le premier confinement, ben justement, je j'essayais de parler d'écologie et de finalement les effets que ça avait sur nos vies et les dégâts que ça pouvait engendrer.
Ouais, je vois un morceau qui s'appelle Massive Destruction. C'est bon, Fragile évidemment, Demon, Red Ocean. Ouais, il y a des. L'album précédent s'appelait La Chute. T'es pessimiste?
Et oui, c'était très pessimiste. Il faut dire que je l'ai fait dans une période aussi qui était vraiment très très difficile. Donc voilà, j'avais vraiment envie de parler des émotions dans La Chute.
C'était. Ouais, d'accord.
C'était compliqué, donc du coup, je pense que j'ai essayé de retranscrire ça. Là, dans Multicolore, clairement, une période un peu plus éclairée, je dirais, de ma vie, un peu plus cool, mais dans laquelle j'ai voulu essayer de traiter de diversité dans tous les sens du terme, diversité au niveau des sonorités, mais aussi diversité, dans le clip de Multicolore, on voit bien que j'ai essayé de traiter un peu des différentes couleurs, des différentes cultures aussi. C'est ça que je voulais évoquer, en fait, dans Multicolore. Je voulais vraiment que tous les morceaux, toutes les ambiances soient très différentes et variées.
D'accord.
Parce que c'est un peu ça, un peu le monde dont on vit, il est riche parce qu'il est varié. Voilà.
Ouais. Certains tentent de nous renfermer sur nous-mêmes et de. Voilà, toi, tu es plutôt partisan d'une forme d'ouverture, d'universalité.
C'est ce qui enrichit une personnalité, c'est l'ouverture. Donc, pour moi, c'était important. Alors après, il n'y a pas que ça dans l'album, hein, aussi. On y retrouve encore, bien sûr, les émotions. Hein, j'y tiens beaucoup, hein, d'essayer de retranscrire des émotions fortes, en fait, par les mélodies ou par les. Avec Ça bouge encore, justement. On a vraiment le texte qui colle à la musique et qui est assez peu. Finalement, quand on regarde le clip, on se dit, voilà, c'est assez profond, en fait.
Alors justement, à propos de texte, en fait, il y a un morceau, dans cet album évidemment instrumental, mais il y a un morceau avec des vocaux, et là tu as collaboré avec Bertrand Betsch. Comment ça s'est passé, cette collaboration, enfin, comment elle est née, et comment vous vous êtes rencontrés, puis comment vous avez dit, tiens, on va bosser ensemble?
Eh bien, en fait, c'est Facebook qui nous a unis. En fait, Bertrand, je regardais ses posts, et à un moment donné, il met cherche beatmaker pour travailler sur des collaborations. Et moi, de chez moi, ben je me dis allez au culot, j'y vais. Je lui envoie un message. Il me répond, il me répond pas. On verra bien. Et il se trouve qu'en fait, il m'a répondu, que je lui ai envoyé une maquette et qu'il m'a répondu j'adore. On y va.
Parce que vous êtes dans deux univers musicaux finalement assez éloignés. Puisque, enfin, moi, j'écoute, enfin, je connais un peu Bertrand Betsch. Effectivement, c'est très chanson, très un peu pop. Enfin, très très léger, très écrit. Donc ça, c'est intéressant. Et alors, du coup, comment vous avez échangé des fichiers? Vous êtes rencontrés ou ça a été vraiment une collaboration par échange de fichiers?
Alors, c'est une collaboration par échange de fichiers. On s'est déjà parlé au téléphone, mais on ne s'est jamais rencontrés. Bon, surtout à cause de la distance, hein, bien sûr. Alors, pour en revenir à nos univers éloignés, en fait, je pense qu'il y avait une vraie volonté de Bertrand de faire quelque chose de différent et d'électronique, justement. Et donc, je suis tombé au bon moment. je lui ai envoyé ma maquette et c'est comme ça que ça a commencé.
En tout cas, c'est très réussi. D'ailleurs, c'est un titre qu'on va écouter. Donc, le titre s'appelle « Ça bouge encore ». Alors, pourquoi « Ça bouge encore », en fait? C'était... Le message derrière, c'est à la fois c'est une collaboration musicale, c'est une collaboration sur des idées. Vous êtes tombé d'accord sur. Vous avez collaboré ensemble sur le texte ou c'est lui qui a écrit les...
Alors le texte est de Bertrand. Toute la partie chant est de Bertrand, en fait.
Ouais.
Donc je n'ai travaillé que sur la musique.
D'accord.
Et lui s'est occupé de la partie chant. Et il m'a dit, je crois que j'ai un texte qui va super bien coller avec la musique. Et donc, il a fait une première ébauche qu'il m'a envoyée. Et là, je me suis dit, ah, mais c'est génial. Ça fait vraiment single, électropop, comme je l'aurais imaginé, moi, si j'avais dû mettre des paroles.
Et ça, c'est une direction que tu penses poursuivre dans d'autres albums ou dans le futur, c'est qu'à la fois, soit te mettre toi-même au chant, ou alors faire appel à des chanteurs invités.
Bon alors Antoine, sache que c'est impossible de me mettre au chant. Ou alors, dans ce cas-là, plus personne n'écoutera les morceaux. Mais, par contre, oui, c'est sûr. D'abord, j'aimerais collaborer encore avec Bertrand, et je crois qu'il est OK sur ça. Et j'aimerais multiplier ça, parce que j'ai trouvé cette expérience super, quoi. En fait, tu vois, si j'en reviens à ma volonté de faire Magnetic Rust et de m'affranchir de certaines difficultés, là, je me suis rendu compte qu'en fait, en travaillant avec Bertrand, tout s'est passé avec une telle simplicité et tellement instinctivement que je me dis que oui, c'est comme ça que j'aimerais travailler, en fait. Ouais. C'est multiplier des collaborations avec des artistes et surtout avec des artistes qui ont cette spontanéité en fait.
Ça ne tourne pas à la compétition d'ego quoi. C'est,
Non, là c'était vraiment une vraie collaboration comme je l'espérais quoi. C'est voilà, on s'est envoyé les fichiers, bah écoute ça va pas et puis hop et puis c'était en boîte et c'était vraiment j'ai eu vraiment eu l'impression de ne pas devoir me battre pour imposer des idées.
Top, en fait, c'est agréable en fait, quand ça se passe comme ça, de façon très, très fluide.
Alors, quand ça se passe de manière très fluide, de toute manière, on obtient des bons résultats. Enfin, j'espère ouais. Que c'est en tout cas le résultat est là. Pour moi, il est bon. Après, j'espère que sera ressenti de la même manière pour tout le monde.
Non, c'est un très bon morceau. Bah, écoute, on va l'écouter tout de suite. Donc, ça bouge encore. Magnetic Rust et Bertrand Betch.
Sous les talons, dans les grands fonds, ça bouge encore, ça bouge encore. Dans le bateau et sous les flots, ça bouge encore, ça bouge encore. Sous le caisson, les fondations, ça bouge encore, ça bouge encore. Ça bouge encore, encore plus fort. Ça bouge encore dans le ressac au fond du lac. Ça bouge encore, ça bouge encore. Sous les décombres tapis dans l'ombre. Ça bouge encore, ça bouge encore. Dans le silence et dans l'absence. Ça bouge encore, ça bouge encore. Ça bouge encore, encore plus fort. Ça bouge encore, encore plus fort. J'avais plus goût à rien. Sous les écrous, sur le déclin, je voyais plus. L'horizon, j'avais perdu l'image, le son, l'envie, la vue et les violons. J'y vais dans l'aide du soupçon et je marchais à reculons, me cognant le front dans le béton. Je m'éloignais de la maison, je ne voyais plus et les sommets et les saisons en rotation. L'urgence du monde sous la boiton, comme à l'arrêt s'assourdissait. La nuit gagnait tout le terrain, le parapet se dérobait. Cherchait le garçon, trouvait son nom, trouvait la clé d'identité. Cherchait le garçon, trouvait son nom, trouvait
C'était Ça bouge encore, un extrait donc de l'album Multicolor de Magnetic Rust avec la collaboration de Bertrand Betch. Alors, on va passer à l'interview express. Donc, si tu ne devais garder qu'un seul album de toute ta discothèque, de toute ta collection personnelle, alors je sais pas, c'est pas l'histoire de l'île déserte, tout, mais on va dire, voilà, il y a une attaque de zombies, tu dois partir avec un seul disque, qu'est-ce que tu prends ?
Extrêmement difficile hein, de partir avec un seul. Hein.
Ah oui, non, mais c'est cruel.
C'est cruel, et je pense que s'il y avait une attaque de zombies, je prendrais un sac à dos pour en mettre plusieurs.
Bon, si vraiment, tu as le droit à plusieurs choix.
Allez, sans doute de manière affective, j'embarquerai avec moi Momentary Lapse of Reason de Pink Floyd, Thriller de Michael Jackson et The Court of the Crimson King de King Crimson.
Ouais, donc aucun album électro en fait, hein, que du.
Eh ouais.
Alors on va restreindre le choix, qui est une question absolument épouvantable. Si tu ne devais garder qu'un seul titre de toute ta collection, que ce soit de single, 45 tours, MP3 et autres, qu'est-ce que tu garderais ? Ou, si on reformule, est-ce qu'il y a un morceau qui est vraiment ton morceau culte, ton morceau favori, celui que tu écoutes en boucle, qui évoque des choses absolument extraordinaires ?
Alors, c'est Echoes de Pink Floyd.
Ouais, très beau morceau. Puis très, enfin, ouais, 20 minutes, magnifique.
20 minutes dans lesquelles on retrouve toutes les facettes du groupe.
Ouais. Tu l'as découvert comment, ce titre ?
Echoes ?
Ouais.
Mon Dieu, j'écoutais ça à l'âge de 8-9 ans, c'était mes parents qui étaient fans. Mmh. Du coup, moi, très très jeune, j'étais vraiment fan de Pink Floyd. Je prenais les vinyles que je mettais sur la platine, je prenais le casque, qui était des gros casques avec des grosses oreillettes, là, mmh. Et j'écoutais en boucle tous ces groupes-là, King Crimson, Pink Floyd, Gong, Ange... Ouais. Des choses comme ça.
Echoes au casque, c'est fabuleux. Enfin...
Ah bah, quand on est gamin et qu'on entend ça, c'est clair qu'on prend une sacrée claque. En fait, ouais. Moi, ça me faisait voyager. Hein. C'était énorme.
Ouais, c'est complètement cosmique, on va dire.
Et il faut dire qu'à cette période-là aussi, moi, j'ai eu la chance de voir Pink Floyd sur scène. C'était le premier concert que j'ai vu, d'ailleurs. Puisque Pink Floyd a fait une tournée en 88.
Ouais.
Et j'y suis allé avec mes parents.
Ça, c'est vrai que c'est un concert de Pink Floyd. Enfin, je les ai vus qu'une seule fois aussi. Ça devait être la même tournée, 88 ou 89, je ne sais plus. Enfin, en tout cas, ouais, grand moment. Est-ce qu'il y a un titre qui te plonge dans une mélancolie, une profonde tristesse, enfin, et quel est l'antidote en fait ? Qu'est-ce que tu écoutes pour te booster une fois que t'es bien down ?
Alors, le titre qui me plonge dans une profonde tristesse, oh, il y en a beaucoup. Hein. D'ailleurs, il faut avouer que c'est ceux que je préfère. En fait.
Ouais.
Allez, là, comme ça, William Scheller, un homme heureux.
Effectivement, ouais. Très très chargé en émotions, effectivement. Ouais. Et alors, qu'est-ce que tu écoutes pour justement pour qu'est-ce qui te rend vraiment joyeux, enfin qui te booste au-delà du fait que effectivement tu préfères les morceaux tristes, mais est-ce qu'il y a vraiment des choses qui sont voilà là tout à coup qui te mettent tu les écoutes, tu les entends et là tu sens la vibe.
Ah mais en fait j'adore la Motown.
Ouais.
J'ai été aussi très fan de, je l'avoue, Michael Jackson. Mmh. Et les Temptations, Stevie Wonder, Michael Jackson, les Jackson 5, Diana Ross, dès que j'entends la Motown, ça me donne la pêche.
Ouais. Il y a des artistes que tu n'arrives pas à écouter ou qui te donnent envie de couper le son, de quitter la pièce, ouais, des choses que tu as trop entendues ou que franchement sur lesquelles tu bloques.
Alors, ceux que je déteste, ce sont pas ceux que j'ai trop entendus, mais c'est ceux que je ne veux vraiment pas entendre. non, mais franchement, je supporte pas, en fait, les Maître Gims, Maître Gims, ouais, Maître Gims, c'est l'exemple vraiment même de ce que je ne supporte pas. Voilà.
Ouais, toute la clique. T'es pas le, je crois que tu n'es pas le seul. Enfin, au moins on partage au moins ça. Et est-ce qu'il y a des choses dans tes, est-ce que tu as quelques petits plaisirs inavouables quand même, des choses que t'écoutes, ton entourage le sait et il se moque de toi ou
Ah mais oui, j'adore la chanson italienne des années 80, hein, les hits comme Eros Ramazzotti. Ah, il y a plein de trucs de variété que j'aime beaucoup. Hein, et d'ailleurs, il y a de la variété qui est hyper bien foutue et hyper entraînante. Moi, alors, c'est des trucs des années 80 en général, hein, puisque c'est la génération dans la, enfin, où j'ai grandi, hein, dans les années 80. Donc, ouais, je vais m'écouter des fois la BO de Karate Kid. Je vais écouter la BO de L'Histoire sans fin. Je vais, enfin, y a plein de trucs comme ça que.
C'est vrai, c'est des Madeleine de Proust, quoi.
Et puis, bah, bien sûr, je l'écoute pas trop fort quand je l'écoute en voiture, ou alors je baisse pas les carreaux pour pas qu'on entende.
Et alors dans les artistes que tu vénères, tu parlais de Michael Jackson, mais il y a des artistes vraiment qui sont pas forcément des sources d'inspiration, mais vraiment des gens qui sont ouais, tes héros.
Ah bah clairement Gilmour vraiment pour moi c'est quelqu'un alors c'est marrant parce qu'en fait je suis pas du tout guitariste hein, mais il y a tellement apporté de ça m'a tellement inspiré ce son de Floyd là qu'il a apporté après l'ère après les premiers albums de avec Syd Barrett j'ai l'impression que Gilmour a insufflé un nouveau genre à lui tout seul hein. Donc
Ouais,
oui Gilmour, Michael Jackson, Stevie Wonder c'est vraiment des personnes que j'admire en fait hein.
ah, ça c'est marrant parce que ça, chez les fans de Pink Floyd, il y a l'école de ceux qui considèrent que, en fait, après Syd Barrett, il n'y a plus rien. Et puis, effectivement, les autres qui ont, enfin, je dirais dont je fais partie, hein, quand j'écoute le solo de Comfortably Numb ou enfin, ce genre de titre, tu dis waouh! Ça t'envoie très très haut, quoi. C'est
Bah,
hallucinant.
moi, j'ai vraiment l'impression qu'il y a eu deux groupes différents. Hein. Donc, Syd Barrett, on était dans une époque, enfin, c'était psychédélique. Pour moi, la suite était très différente. Elle était beaucoup plus planante, beaucoup plus posée.
Ouais, c'est clair, c'est clair, clair. Et ça te, c'est une, ça serait une tentation, enfin, ou une direction artistique que tu pourrais prendre, aller encore plus loin dans l'ambiance pour faire des morceaux, alors là, complètement planant, complètement, je dirais justement, pour retrouver ces sensations qu'on a en écoutant Pink Floyd ou
Ah mais
ce genre de
j'adorerais,
groupe.
mais tout le monde n'a pas les talents des compositeurs de Rick Wright ou de Gilmour pour pouvoir composer des pièces aussi intéressantes. Hein. Mais oui, j'aimerais bien. Ouais. Des fois, je m'y essaie. Hein. Je tente comme ça des ébauches, mais souvent je clique sur effacer à la fin parce que je me dis non, mais c'est pas bon, ça va pas quoi.
Ah oui. Là, tu les gardes pas de côté pour qu'un jour on dise ouais, the lost recordings.
Non, pas cela. Non. Ce que je garde de côté, c'est quand vraiment je suis sûr de réussir à en faire quelque chose. Et quand je pars dans des tripes comme ça, en fait, c'est pas bon de vouloir s'inspirer trop des autres. Il faut juste se laisser nous porter par ce qu'on a envie de faire. On peut être amateur de Pink Floyd sans forcément réussir à faire du Pink Floyd, non?
Mais tu sens parfois quand tu composes, tu dis tiens, tu pars dans une direction et tu dis ah non, ça c'est. Je suis enfin, tu sens l'influence ou tu dis attends, il faut que je change parce que.
Ah oui, des fois ça m'arrive. J'ai toujours peur de faire du plagiat en fait. Je me dis des fois, ah c'est bien ça, mais t'es sûr que ça n'a pas été utilisé quelque part? Du coup, ça des fois j'ai peur et du coup quand j'ai des doutes, j'efface. Et y a aussi un groupe sur lequel je me suis pas, enfin, je me suis pas prononcé. Là, j'ai pas parlé de ce groupe, mais pourtant, il m'a aussi beaucoup influencé dans les émotions, je pense. C'est Marillion, en fait.
Ouais.
J'ai été très très fan de ce groupe, mais la période, alors pour cerner un peu, il y a eu deux périodes hein, dans Marillion. Il y a eu le premier chanteur Fish hein, qui était
ouais.
le plus connu, et il y a eu une très grande période hein, qui continue aujourd'hui avec un autre chanteur qui s'appelle Steve Hogarth.
Ouais.
Et Steve Hogarth est très théâtral dans sa façon de chanter, plus que ne l'était Fish encore.
Ouais, Fish était déjà quand même assez...
Oui, mais on est plus dans un côté... d'ailleurs, il a une voix assez proche de j'ai un trou de mémoire, du chanteur de Tall Talk.
Oui, alors j'ai un trou de mémoire aussi.
Ah, Marco Lise, pardon. Et Steve Hogarth a une voix des fois qui peut s'en rapprocher. Et il ouais. Y a des ambiances comme ça très planantes dans leurs morceaux avec beaucoup, beaucoup d'émotions. On peut détester hein, parce que c'est très. C'est souvent, on dira, mais c'est trop surfait, mais en fait. Ça dépend de ce qu'on recherche, hein, mais moi, en tout cas, ça m'a apporté beaucoup d'émotions. Et j'aimais parfois, souvent, quand je pars dans des morceaux comme par exemple Blue,
ouais.
Où il y a des élans avec des nappes, des violons. J'aime beaucoup utiliser beaucoup les nappes et faire des accords pro qui sont assez, pour moi, évocateurs de, enfin qui transmettent des émotions fortes. Et souvent, je pense que c'est aussi Marillion qui m'a influencé sur ce type de composition.
D'accord. Hors musique, en fait, est-ce que tu as des livres cultes, des films cultes, enfin des références qui peuvent influencer ton travail d'ailleurs, mais qui sont pas dans le domaine strictement musical?
Ah, j'adore la SF.
Ouais.
Pas en bouquin, mais en film.
Ouais.
J'adore les films Rencontre du troisième type, Interstellar, tout ça. Je suis vraiment bon public. On ne me demande pas ce que je pense de Dune. Je sens la question arriver.
Nous n'en parlerons pas, d'accord. Nous n'en parlerons pas.
Non, ça, la SF, j'aime beaucoup. Après, je ne me considère pas comme un cinéphile. Hein. C'est pas trop mon domaine. En bouquin... je n'ai pas vraiment de livres cultes. J'avais beaucoup aimé Grégoire de la Cour. Et je suis en train de lire Dune aussi, tiens. Voilà.
Pour vérifier la fidélité de l'adaptation.
Ouais, c'est ça, en fait.
Non. Est-ce que tu as regardé la version de David Lynch alors?
Ah bah je l'ai en DVD d'ailleurs. Et moi j'en garde un bon souvenir. Je ne l'ai pas revu récemment, mais je l'ai acheté en disant tiens, je le mets dans ma DVD tech parce que il me semble que vraiment à l'époque ça m'avait marqué. Il faudra que je le revisionne là prochainement pour voir un peu, mais.
Non, c'est pas inintéressant. J'ai fait l'expérience après avoir vu la version de Denis Villeneuve.
Denis Villeneuve, en plus, j'aime beaucoup Denis Villeneuve. Enfin, il a fait des films que j'aime beaucoup. Prisoners, Premier Contact, ouais. J'aimais beaucoup.
Ouais. Non, je sens que t'as pas aimé Dune, mais bon.
C'est mitigé, voilà. Tu vois, on arrive finalement à la question, c'est mitigé.
Ouais, c'est mitigé. La musique de Hans Zimmer est un petit peu envahissante, je trouve.
C'est exactement le reproche. Un des reproches que j'ai fait, c'est exactement ça. Je la trouve extrêmement envahissante. Et pourtant, j'ai vraiment rien contre Hans Zimmer, qui parfois est vraiment excellent en support de la vidéo. Mais là... Je sais pas, ou alors c'est parce que les salles de cinéma mettent la musique trop fort aussi, peut-être aussi.
C'est possible aussi. C'est lui qui avait composé Interstellar.
Oui, Interstellar, ouais. Par exemple, je crois que c'est mon avis. En tout cas, dans Interstellar, je n'ai ressenti aucun problème avec la musique. Hein. C'était vraiment, ça collait bien. C'était même bienvenu à certains moments. Là, c'est un peu étouffant dans Dune.
Ouais, j'ai eu la même impression. Hein. C'est le peut-être le seul point sur lequel on tique un peu, quoi. Mais je n'ai pas encore relu les livres que j'avais lus il y a des années.
Et moi, je les avais pas encore lus, donc du coup, je me plonge dedans.
On se dit, la musique électronique et science-fiction, ça a toujours été des... Il y a toujours eu des... Comment dire, des ponts, des convergences entre ces deux univers.
Ah ben, c'est pas faux, puisque une de mes BO préférées, par exemple, c'est la BO de Blade Runner par Vangelis. C'est pour moi, elle est superbe. Je ne commenterai pas ce que Vangelis a fait après, mais en tout cas, cette BO, elle est vraiment magnifique.
Ouais. Oui, puis là, en revanche, effectivement, elle habille vraiment le film, enfin, elle colle une ambiance.
Elle colle à l'univers. Et là, après avoir regardé le film, en réécoutant la BO, on a tout de suite les images qui reviennent, c'est super. Hein.
Alors là, on va écouter en conclusion un titre donc, qui s'appelle Robotic Beats. Ok, il y a du beat, il y a du robot. L'inspiration de ce titre, comment ça t'est venu? Enfin, est-ce qu'il y a une histoire?
Là, c'est la musique qui m'a donné le titre. Hein. Vraiment, après avoir composé ce morceau, ça m'est venu tout de suite. Ouais. Enfin, ça me faisait tellement penser à ça. Ces mouvements, tous ces beats qu'on va entendre là. Puis ce côté un peu robotique, même dans les sonorités. C'était là le titre m'est venu pour une fois presque quasiment instantanément.
Tu vois, c'est pas si difficile quand même.
Ouais, enfin, il y a des morceaux pour lesquels c'est plus compliqué. Ouais.
Ok. Eh bien, écoute, Kevin, merci beaucoup. Donc, on écoute Robotic Beats Magnetic Rust avec un extrait du nouvel album qui vient de sortir qui s'appelle Multicolor.
Eh ben, écoute,
merci, Kevin.
Merci à toi, Antoine.
À bientôt.
À bientôt.
Volume sur 11, un podcast conçu et réalisé par Antoine Dubuquois. Musique du générique Nezik. Pour plus d'informations, www.dubuxblog.com.